Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Fobodioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, attaque de Gaskindé dans le Sahel. 11 soldats ont été tués, 28 autres blessés et une cinquantaine de civils disparus, selon un bilan provisoire du gouvernement. À suivre dans ce journal le témoignage exclusif d'un survivant de l'attaque. Procès massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. L'ancien président Dadis Camara comparaît aujourd'hui avec plusieurs autres accusés. 13 ans d'attente pour l'association des victimes. L'ouverture de ce procès suscite beaucoup d'espoir. En sport, les étalons U23 se sont qualifiés hier pour le second tour éliminatoire de la CAN de leur catégorie en battant la Gambie 2-1. Et puis traitement de l'information en période de crise, on en parle avec notre invité du jour, le professeur Serge Théophile Balima. Pour l'enseignant-chercheur à la retraite, les journalistes ont un devoir de vérité envers les populations. Attaque contre un convoi de vivres à Gaskindé, c'était lundi en début de semaine. L'état-major des armées évoquait des dégâts humains et matériels sans autre précision. 24 heures après l'attaque du convoi de ravitaillement à destination de Djibo, le gouvernement établit le bilan comme suit. 11 soldats tués, 28 blessés et une cinquantaine de civils disparus. Lamine Traoré.
Le bilan provisoire est de 11 corps de militaires retrouvés, 28 blessés, dont 20 militaires, un VDP, volontaire pour la défense de la patrie, et 7 civils, a indiqué hier soir le gouvernement. Il précise qu'une cinquantaine de civils sont aussi portés disparus et que les recherches se poursuivent. Escorté par le 14e régiment interarmes, le convoi a été attaqué par de présumés terroristes près de la localité de Gaskindé, dans la province du Soum, région du Sahel, ce 26 septembre 2022, explique le communiqué qui poursuit que l'attaque a également causé d'importants dégâts matériels.
Lamine Traoré, ce n'est pas la première fois que cette localité subit des attaques d'hommes armés.
Oui, cette localité de la province du Soum a plusieurs fois été le théâtre d'attaques des groupes armés terroristes. Mi-juin 2019, des individus armés ont tendu à une unité du GFAT, le groupement des forces antiterroristes, au niveau de Gaskindé, non loin de Namsigia. L'attaque avait fait au moins un mort et de nombreux blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité. C'est aussi dans cette commune rurale que Oumarou Diko, député maire de Djibo, rappelez-vous, et ses compagnons de route ont été tués le 3 novembre 2019 dans une embuscade. Enlevé le 11 août 2020 à Gaskindé par des individus armés de Kalachnikov entre Namsigia et Djibo, Souaibou Cissé, le grand imam de Djibo, a été retrouvé mort le 15 août 2020. Plus récemment, soit le 24 avril 2022, c'est le détachement militaire de Gaskindé qui est visé par une attaque causant la mort d'au moins une dizaine de personnes, dont 5 militaires.
Lamine Traoré, Radio Oméga, a réussi à avoir le témoignage exclusif d'un survivant de l'attaque. Toujours sous le choc, il nous relate ce qui s'est passé. Ses propos sont traduits du moré au français par Bernabé Cabri.
C'est aux environs de 10 heures que nous avons quitté Bourzanga pour Djibo. Nous sommes arrivés à Gaskindé vers 14 heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous avons marqué un arrêt. Les gens en ont profité pour prier. Après la prière, nous avons continué notre chemin. Et c'est là que tout va commencer. Nous n'avons même pas fait 20 mètres. Et c'est là que les tirs ont commencé. Certains chauffeurs n'avaient même pas encore démarré. Et ceux qui étaient déjà dans leur véhicule sont descendus immédiatement. Et les militaires ont dit à tout le monde de se coucher. Je me suis allongé, les tirs continuaient et se rapprochaient de plus en plus. Nous nous sommes levés pour reculer. Et c'est en reculant que nous avons vu un véhicule de l'armée qui a replié. Il nous a même dépassé. Beaucoup de gens ont commencé à courir. Et d'autres militaires disaient aux gens de ne pas courir. Les tirs ne cessaient pas. Au contraire, ils devenaient de plus en plus intenses. Beaucoup de militaires ont replié. Ce sont les civils qui ont pris même les motos conduire jusqu'à Bourzanga. Il y a eu vraiment des dégâts. Parce qu'il y avait plus de 200 camions qui transportaient les vivres. Certains parlent de 205 camions. D'autres disent que c'est 202 camions. Mais les véhicules qui ont pu faire demi-tour et qui sont actuellement à Bourzanga, avec des vivres, c'est une soixantaine. Le reste a été brûlé. Quand les militaires ont dit aux gens de se coucher, Beaucoup d'entre eux sont descendus pour faire face à l'ennemi, mais ils se sont rendus compte que la force de frappe n'était pas la même. Il y a eu un hélicoptère qui est venu. Il a fait juste un tour et est reparti. Un autre hélico est venu et reparti. Et quand les militaires ont replié, les gens aussi ont replié. Certains même ont marché de Gaskindé jusqu'à Bourzanga. Il y a des gens qui sont blessés, on a pu les secourir jusqu'ici. D'autres sont blessés, ils n'ont pas pu s'en sortir. Sans parler des femmes et des enfants qui ont fui rentrer dans la brousse.
Le convoi attaqué était constitué de plusieurs dizaines de camions de vivres qui devaient ravitailler Djibo. Les habitants de la ville n'ont plus rien à se mettre sous la dent, affirme ce rescapé qui appelle les autorités à agir urgemment pour leur venir en aide.
Dans les jours à venir, il faut que les autorités puissent prendre le problème de Djibo au sérieux. Parce que lorsque nous quittions Djibo le 5 septembre dernier, il n'y avait pas assez de vivres. La population de Djibo comptait sur le convoi qui a été intercepté à Gaskindé. Si ces vivres n'arrivent pas à Djibo, ce sera une catastrophe. À l'heure où je vous parle, il y a des gens qui ont commencé à descendre les vivres pour vendre à Bourzanga. S'ils vendent les vivres à Bourzanga ici, ce n'est pas bien pour les habitants de Djibo.
C'était là l'appel d'un rescapé de l'attaque de Gaskindé dans le Soum qui a fait 11 soldats tués, 28 autres blessés et une cinquantaine de civils disparus selon un bilan provisoire du gouvernement publié hier. Changement climatique, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays d'Afrique de l'Ouest, subit de plein fouet les effets de cette crise. Le SPANG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, veut contribuer à développer la résilience des populations face aux dérèglements, d'où la tenue d'un atelier ouvert hier mardi. Prévu pour durer 3 jours, il réunit des experts du programme Benkadi, venus du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, Solomani Kema et Judith Traoré.
Agir ensemble pour renforcer la résilience des populations face aux effets néfastes du changement climatique en Afrique de l'Ouest. Tel est le thème de cet atelier régional de la planification pour l'année 2023. Sylvestien Touré, directeur régional du programme Benkadi.
C'est un atelier au sorti duquel nous devrons disposer d'un plan de travail et budgétaire pour l'année 2023. Et également, c'est l'occasion pour nous aussi de capitaliser certaines bonnes pratiques. Et nous avons des thématiques phares. Cette année, la thématique phare sur laquelle nous travaillons, c'est le genre et l'inclusion dans les changements climatiques, dont les résultats seront présentés également aujourd'hui. Et nous allons préparer aussi la planification thématique pour l'année prochaine qui va porter sur le renforcement des capacités.
Financé par le Royaume des Pays-Bas, cet atelier va permettre de planifier les stratégies de la théorie du changement climatique. Le chargé de programme World and Dad, basé au Royaume des Pays-Bas, dit ne pas être totalement satisfait des 2 années passées. Lorenz Van Brucken.
And we are not happy yet with everything.
Nous ne sommes pas totalement satisfaits, mais il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été menées en tant que telles. Et nous attendons beaucoup des 2 années qui viennent. Les 2 autres années qui viennent, il y a beaucoup de choses que nous devrons réaliser. Et c'est là que nous allons vraiment voir comment est-ce que nous arrivons à avancer.
Your help being journalist as well.
Le programme Benkadi a une durée de vie de 4 ans et a débuté en 2021. Il a pour cible, entre autres, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les personnes en situation de handicap. Au Burkina, il intervient dans cette région, à savoir le Sahel, le Nord, le Centre-Nord, le Centre-Est, le Plateau Central, les Cascades et le Centre-Ouest.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'inclusion financière et l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises, la coordination de l'unité de gestion du projet a lancé l'édition 2021 du concours de plan d'affaires. Cette compétition a été ouverte aux femmes et aux jeunes des 13 régions du Burkina Faso en vue de leur permettre de profiter des solutions de technologie financière pour surmonter les obstacles entravant leur accès au crédit en améliorant à la fois l'offre et la demande. La remise des prix aux lauréats a eu lieu hier à Ouagadougou. Le point avec Irène Kiema et Adam Skaled Ouedraogo.
Le projet d'appui à l'inclusion financière et l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises PAIF-PME est une initiative de l'État burkinabé financée par la Banque mondiale. L'objectif global de la compétition des plans d'affaires CPA est d'accroître l'accès aux services financiers numériques et faciliter l'accès au crédit en particulier pour les agriculteurs, les femmes et les jeunes. Selon la représentante de la Banque mondiale au Burkina Faso, Maïmouna Mbomfam, cette compétition de plans d'affaires a une grande importance dans un pays où l'accès au crédit est très difficile.
Il y a beaucoup de personnes qui sont porteurs de bons projets, structurants, innovants, mais parce qu'ils n'ont pas une surface financière ou parce qu'ils ont du mal à trouver des garanties pour bénéficier des crédits bancaires, voient leur projet échouer. Donc c'est dans ce contexte que ce projet qui vise, entre autres, l'inclusion financière et le développement des petites et moyennes entreprises, le PAIF-PME, a vu le jour.
Au terme de cette compétition, 37 lauréats ont été retenus dans les différents domaines de la vie économique. 12 de ces lauréats vont bénéficier d'un appui financier octroyé par l'État à travers une subvention de leur projet. Les 25 autres auront droit à un appui technique du PAIF-PME devant leur permettre de bénéficier de financement des institutions bancaires partenaires. Selon le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, ce concours annonce seulement une importance pour les lauréats, mais aussi pour l'ensemble du pays. Seglaro Abel Somé, ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective.
Le fait d'encourager l'émergence d'entreprises, surtout dans des domaines comme la transformation de nos produits, participe fondamentalement du développement économique national, parce que c'est par l'entreprise que nous arrivons à trouver des emplois pour les populations, à distribuer des revenus, donc finalement à créer de la richesse. Et c'est de cette manière-là qu'une nation arrive à émerger.
Les lauréats se réjouissent de cet accompagnement du projet d'appui à l'inclusion financière et à l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Ce sont au total 8 entreprises créées sous forme de sociétés, coopératives ou entreprises individuelles qui recevront leur récompense au titre de l'édition 2021. Les subventions octroyées vont de 11 494 000 à 37 millions de francs CFA, soit un montant global de financement d'environ 300 millions de francs CFA.
Après une nuit passée hier en prison, l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara et plusieurs co-accusés comparaissent ce mercredi pour le massacre commis dans le stade de Conakry le 28 septembre 2009. Ce procès très attendu par les Guinéens démarre ce mercredi 28 septembre 2022, soit 13 ans après les faits. Par rapport à la tenue de ce procès, les autorités guinéennes rassurent que toutes les dispositions sont prises afin que ce procès, qui pourrait s'étendre sur 8 mois, soit une réussite. On écoute Yaya Kairaba Kaba, porte-parole du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme.
Pourquoi tout ce temps? Parce que tout simplement, il faut se dire la vérité, il a manqué la volonté politique. Les hommes chargés de ce procès, c'est-à-dire les magistrats professionnels, ont été sélectionnés. Ils appartiennent tous au tribunal de première instance de Dixé, tribunal territorialement compétent. Ils ont suivi des formations spéciales justement pour la tenue de ce procès. Et en termes de mobilisation des acteurs de la justice, ils ont bénéficié de l'encadrement de la façon la plus large des aînés, depuis nos aînés de la Cour suprême jusqu'au niveau des anciens magistrats comme moi. Nous avons tous mis nos efforts en commun et nous avons grand espoir que ce procès sera une réussite. Les magistrats proprement dit sont une dizaine ou une quinzaine à peu près. Vu la qualité des acteurs mis en cause, tout ceci, un temps prévisionnel de 8 mois. De 8 mois est retenu. À date, il y a 450 participants. Les accusés renvoyés devant le tribunal sont au nombre de 13.
Propos recueillis par notre correspondant Abdoulaye Siré Diallo. Asmaou Diallo, la présidente de l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre, espère que ce sera un procès de vérité. Elle a été jointe au téléphone par Radio Omega.
13 ans, ce n'est pas petit. Et nous espérons que tout va bien se passer parce que nous avons vraiment de l'espoir après, depuis que les nouvelles autorités ont donné leur avis pour l'ouverture du procès. J'avoue qu'ils ont vraiment monté à la vitesse supérieure pour que le 28 septembre soit la date du procès. Nous espérons que tout va bien se passer. En tout cas, tout se prépare très bien. Et les victimes sont vraiment très à l'aise et très contentes. Et nos partenaires, nos amis qui nous ont toujours accompagnés, l'OGDH et la FIDH qui nous ont vraiment accompagnés depuis le début, qui sont partis civils aussi dans ce dossier. J'avoue que tout se passe bien, tout le monde est ravi. J'espère que les choses aussi iront dans de bonnes conditions et que justice sera rendue aux ayants droit et que la vérité va sortir.
La tuerie du 28 septembre 2009 avait fait plus de 150 morts lors d'un rassemblement de l'opposition. Plus de 100 femmes avaient été violées. L'ancien chef de l'État, Moussa Dadis Camara, figure parmi les accusés.
Omega Sport.
Les étalons U23 ont disposé hier de la Gambie 2-1 et se sont qualifiés pour le deuxième tour éliminatoire de la CAN de leur catégorie. Battus 0-1 à l'aller, les hommes de Brahma Traoré et Drissa Kongo ont fait la différence grâce à Brahima Nagoro et Jean Fiacre sur pénalty. Le Burkina Faso affrontera le Sénégal au deuxième tour. Les étalons seniors, eux, jouaient hier leur deuxième match amical FIFA. Les poulains de Hubert Velut se sont imposés 2-1. Face aux Comores en amical sur des buts d'Issoufou, Dayo et Bertrand Traoré sur pénalty.
La revue de presse.
À la une des quotidiens du jour, on parle de l'attaque du convoi de ravitaillement dans le Soum. Que s'est-il passé? S'indigne le quotidien en évoquant les Burkinabés qui continuent de pleurer les morts et les déplacés internes qui ne savent plus à quel sens se vouer et ce malgré les professions de foi et les assurances des autorités civiles et militaires. L'Express du Faso, lui, se révolte devant les Burkinabés devenus les communicants des groupes armés. La revue de presse est présentée par Alinta Ouedraogo.
À la une de l'actualité ce mercredi, l'attaque du convoi de ravitaillement dans le Soum, une attaque qui a fait 11 morts côté FDS et une cinquantaine de civils portés disparus. Pour le journal Le Quotidien, c'est une énième attaque pour laquelle des sources parlent de plusieurs morts, dont des éléments de force de défense et de sécurité et des civils, fait remarquer mon confrère. Une attaque que les Burkinabés peinent encore à comprendre. Une triste réalité qui prouve, une fois de plus, que malgré les professions de foi et les assurances des autorités civiles et militaires, le Burkina Faso est et reste un terrain très perméable, pour ne pas dire poreux, aux attaques terroristes. Le quotidien rappelle ainsi les assurances et les paroles d'espoir du président Damiba lors de son dernier message à la nation pour le bilan de ses 5 mois d'action contre les terroristes. Mon confrère fera désespérément remarquer que ses espoirs sont aujourd'hui noyés dans le doute et le désespoir. Mais hélas, mille fois hélas, s'indigne le quotidien de ce qui vient de se passer à Gaskindé. Cela nous ramène à plusieurs mois en arrière et semble faire mentir le président Damiba et ceux qui martèlent à qui veut les écouter que l'armée monte en puissance. Que s'est-il passé à Gaskindé? Mon confrère s'interroge encore. Comme l'homme de la rue, certains se demandent encore que font nos hommes des puissants services de renseignement.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Le métier de journalisme, on l'exerce au nom de la société, pas au nom d'un pouvoir établi. Le professeur Serge Théophile Balima, enseignant-chercheur à la retraite, est notre invité du jour. Il apporte des éléments de réponse sur le traitement de l'information en lien avec les attaques terroristes pour une meilleure compréhension. Le professeur Serge Théophile Balima répond aux questions d'Asma Odaou.
Bonjour, professeur Balima.
Bonjour.
Le Burkina Faso vit une crise sécuritaire sans précédent. Rien que lundi dernier, un convoi de ravitaillement des populations du Sahel a été attaqué et l'armée parle de dégâts humains et matériels sans donner de chiffres. Professeur Balima, dans ce contexte d'insécurité, une certaine opinion estime que les médias, en relayant ce genre d'informations, sapent le moral des troupes et ou entretiennent la psychose. Finalement, on se demande que faire.
Bon, écoutez, ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que c'est tout à fait normal. Vous savez, le pouvoir, c'est un pouvoir à part. Le journalisme est un pouvoir à part. Ce sont deux pouvoirs qui, généralement, en contexte de démocratie, s'affrontent convenablement avec un esprit d'élégance. Mmh. Mais évidemment, quand on est en situation de crise, cette confrontation devient très conflictuelle. Okay. Et ça, il faut que vous le compreniez. Vous ne pourrez jamais trouver un pays, même dans une situation normale, tout pouvoir établi a besoin de silence. Or, la presse fait le contraire parce qu'elle déteste le silence, parce qu'elle doit informer l'opinion. Donc, il faut que vous vous mettiez dans cette posture-là, qu'on ne vous fera jamais de cadeaux par rapport aux informations que vous donnez. Okay. Ce que les pouvoirs cherchent, c'est que vous transformiez vos informations en communication, c'est-à-dire en message d'accompagnement des actions publiques, ce qui va vous amener à renoncer à ce qui constitue le quatrième pouvoir que vous détenez. Donc, il faut que vous compreniez ça d'emblée. Alors maintenant, pour répondre autrement à votre question, ben, c'est tout à fait normal que le pouvoir établi veut que on raconte, si vous voulez, le moins possible des éléments d'information sur ces échecs. Or, vous avez un devoir de vérité vis-à-vis de la population. Parce que vous êtes redevable à l'ensemble de la population, puisque vous exercez le métier de journalisme, on l'exerce au nom de la société, mais ce n'est pas au nom du pouvoir établi. Donc c'est tout à fait normal que vous cherchiez à dire la vérité. Et c'est normal que vous puissiez simplement faire allusion aux chiffres officiels donnés par les pouvoirs publics, mais c'est votre devoir aussi de confronter la version officielle avec d'autres versions. Et ça, c'est le travail du journaliste, et vous devez le faire, et c'est votre droit de le faire, et vous devez le faire.
On reproche aussi aux journalistes un manque de patriotisme. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi, lors d'une attaque, on met l'accent sur les soldats tués au lieu des terroristes.
Bon, comme je vous dis, vous travaillez au nom de la société. Donc, ce qui touche directement la société, c'est ça qui est l'élément majeur. Or, ce qui touche le plus la société, ce sont les victimes de notre société. C'est-à-dire que les personnes victimes, évidemment, constituent une préoccupation majeure pour le journaliste. Les terroristes, ça, c'est après. C'est tout à fait normal, parce qu'il faut hiérarchiser les informations. Donc, c'est normal que vous privilégiez, en fait, les dégâts humains, c'est tout à fait normal. Ensuite, vous avez les dégâts matériels, les dégâts financiers. Mais dans l'ordre des choses, ce qui touche davantage la population, c'est votre préoccupation majeure. Les terroristes, ce sont des ennemis, si vous voulez. Évidemment, on ne s'occupe pas d'eux pour l'instant, mais on s'occupe en priorité de nos victimes, des personnes blessées, c'est tout à fait normal.
Alors, il y a certains internautes qui nous reprochent en outre, dans notre traitement des communiqués de l'armée, le fait que l'on parle de présumés terroristes. Pouvez-vous nous expliquer cette subtilité?
Bon, ce n'est pas une subtilité, en fait, c'est une prudence professionnelle. Parce que vous ne pouvez pas être à la remorque de n'importe quel vocabulaire. Parce que vous savez que les pouvoirs publics, c'est vrai, disent aussi leur vérité, mais ce ne sont pas des vérités absolues. Lorsqu'on dit que ce sont des terroristes, c'est discutable. Parce que la notion de terroriste est une notion variable. Et ça dépend pour qui le terroriste agit, et ça dépend contre qui le terroriste agit. Si vous prenez le cas, par exemple, d'Israël avec la Palestine, pour les Israéliens, les Palestiniens, quand ils font des attentats, ce sont des terroristes. Mais pour les Palestiniens, lorsqu'ils font des attentats, ce sont des combattants, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des libérateurs. Donc c'est une notion qui est assez conflictuelle. C'est une notion valide dans laquelle, évidemment, chacun y va de sa signification et de ses attentes, de ses fantasmes. Donc quand vous dites présumé terroriste, c'est parce qu'on ne sait pas si réellement ce sont des terroristes, ou bien ce sont réellement des bandits de grand chemin, ou bien seulement ce sont des véritables djihadistes, on n'en sait rien. Donc la prudence sémantique que vous observez me semble être d'une bonne rigueur professionnelle.
Et vous, professeur Baliman, est-ce que vous avez des reproches de façon générale à la presse burkinabé dans son traitement de l'information sécuritaire?
Alors évidemment, quand vous demandez à un professeur de vous dire son appréciation, moi je vous dirais que pour l'instant l'essentiel, ça va, mais il y a toujours des points qu'il faut améliorer. Par exemple, la notion d'équilibre de l'information, il faut savoir, il faut encore travailler davantage pour que l'information soit davantage équilibrée. Parce qu'il ne faut pas non plus que vous soyez à la remorque des réseaux sociaux. C'est une menace extrêmement grave. Mais il faut aussi que les pouvoirs publics comprennent que s'ils n'investissent pas dans les réseaux sociaux, ils vont être dépassés par ces canaux de diffusion aussi de l'information qui sont des canaux de plus en plus importants et avec lesquels il faut compter.
Professeur Baliman, merci.
Je vous remercie.
Le professeur Serge Théophile Balima, enseignant-chercheur à la retraite, répondait aux questions d'Asma Odao. Ce journal a été réalisé par Adama Konaté à la retransmission Facebook Yaya Diomandé. Merci à vous qui nous écoutez partout au Burkina et à travers le monde sur notre site web omegamedia.info. Clin d'œil cet après-midi aux habitants de Pau. Excellente suite de programme.
Radio Omega, l'info en direct.